Lyon demain, histoire lyonnaise.
Le festival Silk in Lyon, le festival de la soie, est de retour au Palais de la Bourse. La 5e édition se tient jusqu'à dimanche. Les professionnels de la soie sont mis à l'honneur pendant 4 jours. Mais plus que jamais, le grand public est invité à toucher et à participer. Des expositions, démonstrations, conférences, des battles de mode ou encore une chasse au trésor. Les visiteurs peuvent participer à de nombreux ateliers. Certains sont payants, d'autres gratuits, comme la confection de son propre bracelet en soie. Profitez de ce festival pour aller faire un tour au musée Brochier-Soiry, situé quai Jules Courmont, au sein de l'Hôtel Dieu. L'établissement est dédié à l'histoire de la soierie à travers celle d'une famille de soyeux. Une collection de robes en velours façonné, brochet soierie et bianchini ferrié est actuellement présentée. Le tissage du velours de soie est un savoir-faire réputé à Lyon. Lily Gauvin, américaine vivant à Chicago, contacte un jour Cédric Brochier pour créer et imprimer un carré de soie pour le 125e anniversaire de l'Alliance française de Chicago. Un premier contact qui va faire naître une belle histoire que nous raconte Lily.
J'avais pris connaissance que c'était Brochier qui avait racheté Bianchini Ferrié dans l'année 2002. Je me suis dit, je vais prendre les photos des robes que j'ai gardées depuis les années 70 qu'avait ma mère, qui ont été faites en Argentine par une couturière qui connaissait les beaux tissus. On avait fini notre conversation au sujet de foulard. Je montre à Cédric la photo des tissus et il me dit, bah, évidemment, ça c'est du Bianchini. Mais oui, c'est du Bianchini. En Argentine, il me dit, oui, l'Argentine a été un grand acheteur de soieries de Bianchini. Alors je lui propose de lui envoyer des photos des robes, parce que j'ai pas pris des photos de robes. Et quand je lui ai envoyé, il a sauté dans un avion, il est venu. Donc il a trouvé encore 2 robes de plus. Et les voilà aujourd'hui au musée. C'est des preuves du rayonnement de la France. Parce que c'est un produit fabriqué en exclusif à Lyon qui est allé dans le monde entier, même en Amérique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, comme chez nous. Le fait que nous sommes de famille française et on apprécie tout ce qui est de cette qualité, de ce monde français. Voilà, on a fait des robes qui ont été portées par ma mère aux États-Unis et en Amérique. Et de les voir aujourd'hui dans un musée, pour moi, c'est vraiment une grande émotion, parce que c'est donner encore de la vie à ces robes. C'est aussi un hommage à ma mère, qui a su apprécier, qui a vécu avec ces robes. Et aujourd'hui, elles sont ici pour que le grand public puisse les voir.
Brochier, un grand nom de la soie. Cédric Brochier est l'héritier de cette famille, dont la première activité dans la soie remonte à 1890. Il a accepté de revenir sur cette histoire de la soie en nous faisant visiter le musée.
Depuis 1890, c'est une histoire qui ne s'est jamais arrêtée et qui a toujours été une histoire avec plein de rebondissements. Et c'est ça qui est un petit peu la magie dans l'histoire, moi, de ma famille, c'est que la soirée, ça n'a jamais été facile. Et dans chaque période difficile, en fait, on est allé chercher qui pouvait éventuellement sauver la société, et donc de tisser d'autres fibres, de faire des tissus techniques, de faire des tissus intelligents, de voyager dans le monde entier pour pouvoir trouver des nouveaux marchés, des nouveaux clients. Et ça, c'est l'ADN de ne jamais s'endormir.
Alors, sur le plan général, sur la soie, quelles sont les dates clés, je dirais?
Les grandes dates clés de la soie, c'est, on va dire, à partir de 1400, il commence à se passer quelque chose. Surtout, c'est que les rois de France ont été des grands consommateurs de soie, le clergé aussi, mais ben, toute la soie venait d'Italie. Donc, pendant des années, dans les budgets de l'État, le budget soie était, donc tissu, était un budget énorme. Et puis, à un moment où certains, les rois, ont commencé à se poser des questions et dire, mais et si on rapatriait ça en France? Alors, plein ont été impliqués. François Ier était un des plus importants, puisque il a fait venir des tisserands florentins dont on sait que c'est eux qui ont amené, entre autres, le Vieux Lion, tous ces bâtiments très typiques de Florence, qui aujourd'hui, en fait, sont l'architecture de Lyon d'une certaine manière. Et ces deux florentins, en fait, sont venus avec leur métier à tisser et en fait ont appris. Et puis après, ben, il y a eu des facilités en termes de commerce pour que la ville de Lyon devienne une ville commerçante de soie, etc. Et puis les sociétés de soierie se sont créées les unes après les autres. Certaines pour l'ameublement et d'autres pour l'habillement. Donc au fur et à mesure, en fait, on s'est retrouvé à avoir deux grands pôles à Lyon sur la soie tout ce qui était ameublement, les châteaux, les grandes demeures, etc. Et puis tout l'habillement, parce que bien entendu, dans une cour, il fallait aussi avoir des très belles robes. Et puis cette histoire, elle s'est continuée au fur et à mesure. Les rois, Napoléon a eu aussi énormément d'importance. Tous ceux qui ont construit des châteaux, ont rénové des châteaux, etc. Donc en fait, il a chaque fois fallu faire des très beaux tissus. Et donc en fait, on s'est retrouvé, la ville de Lyon s'est toujours retrouvée portée par ça. Puis jusqu'au moment où la haute couture est arrivée, 1890, 1905. Et il se trouve que mon arrière-grand-père a commencé en 1890, donc en fait, il est arrivé au moment de la haute couture. Et dans les fabricants de soirées, il y a ceux qui faisaient des tissus entrée de gamme, plutôt moyen de gamme, et puis il y a ceux qui sont plutôt spécialisés pour la haute couture. Et moi, mon grand-père, puis après mon père, en fait, se sont spécialisés dans des tissus, plutôt des tissus chers, compliqués à réaliser pour des gens de la haute couture. Alors, et donc, avec un marché très compliqué, parce que les créateurs de mode sont un peu des divas, et donc en gros, je voudrais, et quand je parlais du lamé du poète, c'est en gros, je voudrais un tissu qui brille, avec un très beau tombé, et qui soit en même temps doux pour la peau, etc. Et donc, il fallait inventer, et ça s'arrête jamais. La mode, c'est tous les 6 mois.
Sur le plan technique, il y a une invention quand même à Lyon, c'est le métier jacquard.
Alors le métier jacquard, ce musée n'existerait pas, la soirée n'aurait pas existé sans ce métier jacquard. Les Italiens, en fait, viennent, mais à Lyon, il y a tellement de gens qui s'impliquent dans ce métier-là. Et Lyon est une ville de travailleurs et donc d'ingénieurs, etc., de chercheurs, etc. Et jacquard en est un, et donc lui, il invente cette fameuse mécanique, ce carton perforé, en fait, qui permet de pouvoir créer en fait un motif en levant les fils ou en ne les levant pas. Et en fait, c'est le système binaire que Jacquard a inventé. Et ce système binaire, c'est la naissance de l'informatique. L'informatique, c'est des réseaux. Les textiles, c'est du réseau. Et donc, en fait, le lien est très fort. Et donc, ce métier Jacquard, il nous permet aujourd'hui de faire tout ce qu'il y a dans ce musée. Rien ne serait fait sans ce métier-là.
Alors, justement, ce musée, parlons-en. Qu'est-ce que vous allez vous lui montrer? C'est quoi? C'est un peu un résumé de l'histoire de la soirée ici?
Alors, ici, c'est un résumé de l'histoire de la soirée lyonnaise. Vraiment en très condensé, parce qu'on n'est pas... On ne joue pas un rôle de grand historien, donc en fait on essaye de raconter l'histoire de la soie à Lyon à travers en fait l'histoire de ma famille. C'était un bon fil conducteur. Alors on parle beaucoup de la soie, on parle un peu de la famille et de Bianchini Ferrier, qui sont un peu les deux grandes sociétés de soie lyonnaise. Et Bianchini Ferrier, je l'ai racheté en 2002, donc il y a un lien, et il y avait un lien très fort entre les deux compagnies, parce qu'ils avaient développé des tissus en commun, et puis ils travaillaient tous les deux pour la haute couture. Ils avaient à peu près les mêmes marchés, donc il y avait et de la compétition et en même temps du soutien entre les deux. Mon père a construit une usine qui était en même temps c'est la sienne et celle de Bianchini Ferrier, donc des liens très forts. Donc on les a regroupés dans ce musée là et on raconte toute l'histoire de la soie dans ce musée là mais on la raconte on raconte même l'histoire de la soie mais du textile, parce qu'en fait après la Seconde Guerre mondiale, on s'est retrouvé avec pas de soie, et donc on a tissé des fibres de verre. Donc en gros, l'histoire, elle s'est jamais arrêtée. Quand on a toujours rebondi, il y a un moment ou un autre où il a fallu qu'on puisse faire autre chose. Et donc ce musée, en fait, il va jusqu'au bout et il s'arrête pas. Puisqu'en fait, quand on sort de ce musée-là, la société, il y a des gens qui... Elle est moins grosse maintenant, mais il y a des gens qui travaillent tous les jours pour faire les nouvelles collections pour la haute couture et les autres.
On voit du textile, évidemment, ici, mais on voit aussi des robes. Et ça, c'est ce qui est un peu plus compliqué pour vous, de retrouver justement ce qui a été produit à partir de ce que vous avez fabriqué.
Alors ça, c'est important, parce qu'effectivement, il y a eu une exposition à Lyon, au musée des tissus, qui était très bien, sur Saint-Laurent, et justement, on mettait en avant les créateurs de tissus, et c'est vrai qu'on fabrique des tissus, on voit les robes qui ont été réalisées avec, mais après ça disparaît, c'est plus dans nos archives, c'est plus dans nos collections. Nous, il nous reste des échantillons de tissus, un point, c'est tout. Et là, véritablement, dans ce musée-là, on cherche des robes, parce qu'en fait on veut pouvoir présenter des tissus, c'est bien, mais il y a un côté un petit peu pas très attractif. Ça veut dire que c'est vraiment pour des gens qui vont connaître la matière, qui vont aimer. Alors c'est beau, mais quand on voit une robe de Saint Laurent, une robe de Dior, une robe de Chanel ou de Michael Casey, qui est un Américain qui est là aujourd'hui, on comprend la magie. Ça veut dire qu'il a choisi un tissu, il l'a vu dans une collection, il a dit, tiens, moi, je pourrais faire une très belle robe avec ça, et d'un seul coup, nous, aujourd'hui, on a réussi à racheter des robes. Et puis surtout, on a une Américaine dont la mère avait 1000 robes, qui était à Chicago, et qui nous a donné pour le musée 5 robes en velours façonné. Et grâce à ces 5 robes, on a décidé de faire une exposition. Et puis ces robes étaient toutes en velours façonné, qui était un vrai savoir-faire lyonnais que Bianchini et Brochier ont porté. Et donc en fait, on a pris ces robes comme l'élément fédérateur, et on a retrouvé d'autres robes, une de Chanel, de Saint Laurent, de Galanos, qui est un autre américain qui a travaillé pour Marilyn Monroe, etc. Et donc on présente ici, en fait, les gens arrivent en disant je vais voir un musée du tissu, de la soirée, et en fait compte, il y a surtout des robes. Et donc là, il y a un très très beau défilé de robes avec des velours façonnés fantastiques.
Et pour finir, il y a un nez de Concorde à la fin. Quel est le rapport entre le nez de Concorde et la soirée?
Et pour finir, en fait, on se retrouve à la fin, c'est qu'effectivement, ce savoir-faire de la soirée, c'est d'inventer des métiers à tisser qui vont permettre de tisser certaines choses un peu compliquées, etc. Et il y a un moment où, en fin de compte, on est venu nous demander des tissus très compliqués pour l'aéronautique et pour le nez du Concorde, qui avait une problématique liée aux ondes qui devait traverser, etc. Et donc, on dit, on voudrait que vous nous tissiez le nez du Concorde sur vos métiers à tisser. Et comme chez Brochier, on était très innovants et toujours passionnés par ces projets comme ça, on dit, OK, pas de problème, on va essayer. Et le métier sur lequel on arrive à tisser le nez du Concorde, c'est un métier de velours. Donc, en fait, on a des robes qui ont été tissées sur des métiers velours façonnés. Et puis, la dernière pièce du musée, c'est le nez du Concorde qui est tissé sur un métier de velours façonné. Et aujourd'hui, le Rafale est encore tissé sur ce même métier à tisser là. C'est-à-dire que l'histoire, elle ne s'arrête jamais, en fait, dans ce métier-là.
Au musée Brochier, vous allez découvrir un métier à bras mécanique jacquard de 1880, mais aussi des planches d'impression, des inventions racontées, comme le tissu d'ameublement ininflammable, créé à partir de la fibre de verre de Saint-Gobain après la Seconde Guerre mondiale, sans oublier les nouveaux textiles conçus à partir de fibres optiques et qui servent encore aujourd'hui le secteur de l'aéronautique. Le musée des soirées Brochier 18, quai Jules Courmont, est ouvert tous les jours de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.